France, est-ce que tu as été surprise d'apprendre que Yves-François Blanchet reprenait le bâton du pèlerin?
Oui,
ben, c'est vraiment ça.
Quand même, parce que c'est tout un défi. Ça vient avec beaucoup de risques d'aller prendre la direction du Bloc québécois. Ils viennent de perdre 2 années avec Martine Ouellette qui ont été réchappées par Mario Beaulieu. C'est un parti en déroute et le ressaisissement va devoir se faire très vite. Évidemment, les élections fédérales s'en viennent en novembre prochain. Donc, la course à la direction commence le 14 décembre. Ça se termine en février. Et Yves-François Blanchet a l'appui de Mario Beaulieu, de Gilles Duceppe, de Pauline Marois. Ils aimeraient que ce soit un couronnement, qu'il n'y ait pas vraiment de course pour qu'on installe son autorité plus rapidement. Mes deux collègues de l'actualité, Philippe Gifournier et Alec Castonguay, ont même dit qu'ils pourraient se présenter dans Hochelaga, qui est un quartier urbain prenable. Le Bloc l'avait dirigé, était représenté entre 1993 et 2011. Actuellement, c'est une NPD qui est là, mais qui devance le Bloc d'à peine 3 points. Donc, ce serait jouable pour Yves-François Blanchet. Par ailleurs, c'est probablement la bonne personne, si on croit encore au Bloc, parce que c'est un solide batailleur. Il est connu, ce qui ne nuit pas. Il n'a pas la langue dans sa poche. C'est assez inespéré. Il aime la joute politique. Il a quand même fait un peu d'argent dans les médias ces dernières années, ce qui aide à se remonter d'une carrière politique. Bref, les circonstances seraient bonnes pour quelqu'un qui aime la politique comme lui.
Il est parti très vite, hein. Hier, oui. Il a dit merci, bonsoir.
Absolument, il réfléchit.
Je m'en vais en réflexion.
En réflexion, ouais. Il a tout suspendu oui et on dit que c'est lundi que sa décision tomberait. La question, évidemment, Paul, c'est, et puis la question à laquelle il va réfléchir ces prochains jours, est-ce que le Bloc québécois est sauvable? C'est un parti qui a toujours, je vois ta face.
Ben, c'est une excellente question.
C'est vraiment une question que moi, je me pose depuis des années. C'est un parti qui a toujours alterné entre deux pôles. Entre la promotion de l'indépendance quand le PQ était plus faible à Québec et entre la défense des intérêts du Québec à Ottawa quand le PQ était plus fort à Québec. Bref, une espèce de police d'assurance pour le Québec et en même temps, le Bloc était tellement confortable et rassurant pour beaucoup de Québécois que ça réduisait l'urgence de faire l'indépendance. Ça rendait, tu comprends, le système fédéral acceptable, entre guillemets, pour des gens qui sont portés vers l'indépendance. Il y a le contexte actuel qui a quand même changé. Donc, je te disais, un parti qui est quand même vacillant, en dérive, mais François Legault va passer sa loi sur l'immigration et la laïcité et ça va heurter de front tout ce qui est multiculturaliste au Canada anglais et le Bloc pourrait être perçu comme, pour beaucoup de Québécois, comme un rempart. Ça servirait à canaliser le vote des caquistes et des péquistes. Mettons, il y a cette option-là. La crise que l'Ontario francophone vit en ce moment, les francophones hors Québec, peut-être que le Québec peut devenir comme une espèce de police d'assurance, centraliser le vote québécois contre ces méchants Anglais qui font tant de mal aux Franco-Canadiens. Et là, je vais même pousser ma loque, Paul, à la limite, pourquoi ne pas accueillir un candidat du Nord ou de l'Est ontarien? Que le Bloc serait vu comme une espèce d'allié pour les francophones ontariens.
Ouais. Et pas seulement pourrait défendre pour le Québec.
Exactement. Ouais. Il pourrait circonstanciellement s'élargir à la francophonie hors Québec. Ça pourrait être intéressant pour eux et pour le Bloc.
Mais quand tu regardes l'histoire récente du Bloc, Marie-France, ils se sont jamais remis de la vague orange.
Jamais. Jamais.
On n'avait jamais vu venir le nouveau Parti démocratique.
Non, mais la vague est morte.
La vague a été un raz-de-marée, un tsunami qui a tout emporté, incluant le chef.
Exactement.
Qui faisait un retour.
Oui.
Il n'est pas dit que le NPD actuel, avec son chef actuel en tout
c'est
cas,
pas parti pour
va
ça.
Répéter ça.
Non, c'est pas vraiment parti pour ça. Puis tu sais, Mario Beaulieu a parlé, avant qu'on parle de refondation du Parti québécois, il avait appelé à la refondation du Bloc. Alors peut-être qu'il y aurait une opportunité d'aller chercher, mais là vraiment je fais de la politique fiction, mais ça pourrait être un beau geste d'ouverture, un opportunisme payant et généreux que d'aller chercher peut-être un franco-ontarien. Parce qu'évidemment, à quoi rime le Bloc quand on ne sait pas ce qui adviendra du PQ à Québec. Il y a toute cette question-là, évidemment. Sous quelle forme, avec quelle option va-t-il se présenter aux élections québécoises de 2022? Alors, est-ce que le Bloc va survivre si la flamme s'éteint au Québec, on se souviendra que Lucien Bouchard, cofondateur avec Jean Lapierre, avait dit que c'était le parti d'une élection et que ça devait s'éteindre.
Ouais.
Bref, c'est un parti qui ne veut pas, mourir. Beau défi pour Yves-François Blanchet. Vraiment à suivre.
C'est une chanson de René Martel, ça.
Oui,
j'ai
exactement.
J'ai un amour qui ne veut pas mourir.
Ouais.
Et là, j'ai un parti qui ne veut pas mourir.
Tout à fait.
Bon. Mais toi, Marie-France, ça ne devrait pas te toucher, cette nouvelle décision de
ben
la
voilà.
mairesse Valérie Plante d'enlever 480 places de stationnement
484.
Sur la future...
484
places de stationnement sur la future avenue Sainte-Catherine,
ouais.
telle qu'on va l'imaginer. Parce que toi, tu voyages en vélo.
Bien sûr, et j'ai signé le pacte pour la transition, donc je devrais applaudir à deux mains. Je tiens à préciser que je suis pour l'apaisement des quartiers résidentiels. Arrête d'être mort de rire, de même, tu me déconcentres.
Donc... Dominique Champagne, elle a signé le pacte.
Ben oui, mais je suis pour l'apaisement des quartiers résidentiels, comme le plateau. Je suis pour rendre à sa quiétude un parc urbain comme le Mont-Royal. Mais je suis plus ambiguë sur l'idée de retirer le stationnement de la rue Sainte-Catherine, qui est encore, jusqu'à preuve du contraire, la plus grande artère commerciale au Canada. Est-ce qu'on veut la tuer? Et là, on ne parle pas de piétoniser la rue Sainte-Catherine. Non, 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 on la garde ouverte à l'auto, mais elles ne peuvent que passer. Elles ne peuvent pas stationner dans le projet qu'a choisi l'administration de Valérie Plante. Donc, il y a, je trouve, chez cette administration, un manque de cohérence. Ils ne veulent pas piétoniser carrément, mais ils choisissent une demi-mesure qui n'a que des désavantages. Ils disent, il y a 20 000 places de parking au centre-ville. Oui, Paul, mais elles sont toutes occupées. Et là, aujourd'hui, on dit, OK, on va faire des stationnements souterrains. Oui, je veux bien, mais il faut les faire, les stationnements souterrains. On n'y est pas. On va la fermer, puis après, on va penser à des solutions, comme après, on pensera à un transport en commun, après, on pensera peut-être à un tram. On n'est pas, et cette administration-là n'est pas contre le Royal Mount 1540, dont je te parlais la semaine dernière, ce méga centre commercial à l'intersection de deux autoroutes dans le nord de la ville.
Et qui va tout bloquer des carrés pendant 35
bien
minutes.
Bien sûr, mais qui va surtout avoir un impact sur la rue Sainte-Catherine, parce que ça va être vraiment gigantesque dans la région montréalaise. Ça va drainer carrément la clientèle qui serait allée sur la rue Sainte-Catherine. Et on nous dit, oui, mais la rue Sainte-Catherine, ça va être une expérience avec des restos et des terrasses tout mignons. Non, les loyers vont être exorbitants. Ils le sont déjà. Les commerces qui ne sont pas des bannières ont quitté ou quittent. Et comme resto et comme terrasse, il y aura que les Starbucks et les Second Cup de ce monde qui auront les moyens. Fait que des restaurants cute, là, comme il y en a sur des rues résidentielles comme Monkland ou à Sainte-Thérèse ou tout ça, oubliez ça, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et les travaux vont durer plusieurs années, vont rendre déjà la rue exsangue, littéralement. Et après ça, on veut la rendre toute cute, fossilisée, Walt Disney. Où est le piment? Où est la sensation urbaine? Bref, on a la recette rêvée pour éteindre cette rue-là.
Ben, coup parti qu'elle nous amène un tramway rose. Une ligne rose de tramway, non? En plein milieu? Un coup parti?
Ben, un coup parti, cela dit, ça aurait été, puis là, je vais même prêcher contre ma paroisse, ça aurait été, je crois, plus utile qu'une autre voie cyclable sur Sainte-Catherine. Il y en a déjà une sur Maisonneuve, Est-Ouest. On pense à en faire une sur Sherbrooke. Puis là, il y en aurait une sur Sainte-Catherine. Un tramway aurait été, comme à Denver, par exemple,
ouais.
où c'est piétonisé, la rue principale est piétonisée,
et
il y a un tramway. Mmh. Ça aurait été plus utile, un tramway, qu'une voie cyclable, alors qu'il y en aura déjà ouais. deux dans le même axe à deux rues de distance. Évidemment, on me dira que c'est un mouvement européen de rendre l'auto rare dans les centres-villes. Pense à Londres avec son péage exorbitant. Pense à Madrid et ses parkings officiels, sinon tu as une amende salée. Pense à Paris qui, dorénavant, tous les dimanches, du 1er au 4e arrondissement, va être piétonnier. Mais il y a densité, c'est beaucoup plus concentré comme trame urbaine et il y a un transport collectif qui existe et qui est vraiment très développé. On n'est pas là en Amérique du Nord, on n'est pas là encore à Montréal. Donc, je suis très ambivalente.
Et permets-moi d'ajouter que nous avons un hiver.
Et nous avons un hiver. Ben, là, voilà.
Là.
Exactement.
Alors, on peut, à un moment donné, penser à des gens qui veulent aller sur la rue Sainte-Catherine
oui.
et qui auront besoin d'y aller en automobile l'hiver.
Effectivement.
Et peut-être trouver un petit espace de stationnement et pas nécessairement rouler à vélo en plein milieu de l'hiver.
Voilà.
Il y en a qui le font. Mais...
mais ce n'est pas la majorité. Et vraiment, moi qui aime passionnément ma ville et qui suis pour des mesures d'atténuation, on est en train de la tuer.
Alexandra Pouliot, notre chercheuse, oui? me refile cette information-là. En terminant, Marie-France, qui va t'intéresser, Jean-Paul Marchand, ancien député du Bloc, franco-ontarien.
Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais. Jean-Paul Marchand est originaire du nord de l'Ontario. Exactement. Ah, Penetanguishene.
Ah oui.
C'est là que vient le chanteur, là, que j'aime beaucoup.
Damien Robitaille.
Penetanguishene. Oui. J'avais une tante religieuse qui demeurait là, en mission. Il y a très longtemps.
Oui, en tout cas, il y a peut-être une ouverture.
Tu vois, il venait de là, lui. Oui, c'est oui, un ancien député bloquiste. Peut-être qu'il pourrait y avoir une...
Je lance ça dans l'univers l'Ontario francophone.
Une main tendue.
Bien, ce serait... ça pourrait être un débouché intéressant pour le Bloc.
Merci, Marie-France.
À demain, Paul. Ouais.